Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à assurer l'avenir de vos enfants.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Aujourd'hui, à l'occasion de la 18e journée européenne de la prostate, émission consacrée à cette petite glande masculine située au cœur des systèmes urinaires et génitales. Le plus souvent, ce sont des troubles de la fonction urinaire qui alertent les hommes sur la santé de leur prostate, un organe finalement assez méconnu et pourtant essentiel à l'activité sexuelle et reproductrice de l'homme. Changement de volume, douleur, urgence urinaire, troubles de l'érection, ces symptômes sont souvent liés à l'âge et doivent pousser à consulter même si la question reste taboue. Taboue parce que la prostate, pour beaucoup, est un symbole de virilité. Taboue aussi parce qu'aux yeux du grand public, elle est associée au vieillissement et au cancer de la prostate, premier cancer masculin. Pourtant, de nombreux cas de cancer de la prostate ne sont pas agressifs et quels qu'en soient les troubles, des solutions existent, un dépistage et des gestes de prévention aussi. Alors, quels signes doivent alerter? Quels signes doivent pousser à consulter? Faut-il forcément se faire dépister à partir de 50 ans? Comment et prévenir assurer une bonne santé de la prostate? Et finalement, quels sont les traitements adaptés et accessibles selon les régions du monde? Tour d'horizon avec notre invité. Et pour en parler en studio avec nous aujourd'hui, professeur François Desgranchon, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris et de l'unité translationnelle d'immuno-onco-urologie du CEA. Et vous avez signé l'ouvrage La prostate, on en parle aux éditions Hachette Bien-être. Nous retrouverons tout à l'heure du Mali le docteur Honoré Berthé, andrologue, urologue à l'hôpital Point G de Bamako. Et en fin d'émission, nous ferons le point sur la journée mondiale d'Alzheimer. Nous en parlerons avec le docteur Christophe Trival, responsable de l'unité cognitive au comportemental Sebagla Noé de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif en région parisienne. Et si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Desgranchon, tout d'abord, une leçon d'anatomie s'impose. Qu'est-ce que la prostate et où est-ce qu'elle se trouve ?
Donc la prostate, comme vous l'avez dit, à la jonction entre les voies urinaires et sexuelles, c'est une glande qui sécrète le sperme et qui se situe sous la vessie. Et l'urine doit passer au milieu pour sortir par la verge. Et donc, quand la prostate est malade, les premiers signes, comme vous l'avez dit également, sont des signes urinaires. Les gens ont un comportement urinaire anormal et notamment commencent à se lever la nuit. Ça, c'est quand la prostate grossit. Et puis, quand la prostate est cancéreuse, les signes sont plus tardifs et on parlera alors du dépistage pour trouver le cancer avant qu'il soit trop avancé.
Alors, une première question d'un auditeur sur Facebook, c'est Joseph qui est au Tchad et qui voudrait connaître les différentes atteintes de la prostate qui peuvent affecter les hommes, parce qu'il nous dit « J'entends la plupart des gens dire « j'ai la prostate, mais je ne comprends pas ».
Alors effectivement, « j'ai la prostate », c'est assez récurrent parmi les patients. Il y a trois maladies possibles dans la prostate. La plus fréquente, c'est la prostate qui grossit. Et donc, les gens sont gênés pour uriner, le jet est faible ou se lève la nuit.
Qu'on appelle l'adénome.
C'est ce qu'on appelle l'adénome de la prostate. La deuxième pathologie, c'est l'infection. C'est comme l'infection urinaire de la femme, mais c'est plus rare. Ça s'appelle la prostatite. Ça brûle quand on urine fréquemment, ça se traite par antibiotiques. Et la troisième pathologie, c'est le cancer de la prostate, qui lui est plus insidieux parce qu'il se développe dans une partie de la prostate qui ne comprime les voies urinaires que tardivement. Et donc, pour le trouver, il faut faire un dosage sanguin qui est le PSA et ça se soigne très bien si c'est trouvé tôt.
Ce qui veut dire que les symptômes du cancer au début sont inexistants.
Pratiquement inexistants. Mmh. Parfois, il y a un peu de sang dans le sperme, mais on peut avoir du sang dans le sperme sans cancer. Et sinon, après, ce sont des signes plutôt d'extension, voire de métastase, des douleurs osseuses en particulier.
Et le cancer de la prostate est une question relativement taboue pour beaucoup d'hommes, parce que cette glande est associée à cette maladie.
Oui, et il y a une sorte de culpabilité. C'est, en fait, quand un homme a un cancer de la prostate, il faut d'emblée lui dire que ce n'est pas de sa faute, parce qu'on cherche toujours une raison. Pourquoi moi ? qu'est-ce que j'ai fait de bien, de pas bien, et notamment sur le plan sexuel. Et donc, il faut rassurer ces hommes en disant que voilà, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute au destin, et qu'on va les soigner, mais qu'il n'y a pas de culpabilité à ressentir.
On va parler des traitements plus tard, évidemment. Je voudrais juste vous citer un exemple. C'est également un auditeur qui nous a laissé un message sur Facebook, Brahim, qui est en Mauritanie, qui demande si le cancer de la prostate peut rendre stérile. Grande inquiétude.
Alors, le cancer de la prostate en lui-même ne rend pas stérile, mais les traitements, oui. Que ce soit les rayons ou la chirurgie quand on enlève la prostate, ou le traitement hormonal quand le cancer de la prostate est déjà étendu, perturbe beaucoup la fertilité. Oui.
Donc, en fonction des traitements, on va bien sûr en reparler. En consultation, professeur Desgrandchamps, pourquoi les hommes viennent vous voir? Quels symptômes d'abord les poussent à consulter?
C'est souvent leur femme qui les pousse à venir. Hein. Un homme, s'il était tout seul, il ne viendrait pas. Ils viennent souvent en reculons.
Et vous avez dire quoi? Madame dit, fais le check-up de la cinquantaine.
Il dit, voilà, moi je vais chez les gynécologues régulièrement. Toi, il faudrait que tu saches, tu n'as pas fait attention à ta prostate. Et donc, l'homme vient un peu à reculons et, parce qu'il a peur, il a peur d'être opéré, il a peur d'une atteinte à sa prostate, d'une atteinte à sa virilité, comme vous l'avez dit, voire un peu de honte s'il se lève la nuit, s'il a quelques fuites d'urine. Il n'ose pas en parler et l'homme se referme sur lui très souvent. Et puis, quand on finit la consultation, alors là, il est en confiance. Et souvent, il s'ouvre. Et en fait, ce qui se passe, c'est souvent les problèmes sexuels arrivent après. C'est-à-dire qu'il en parle après. Et il faut savoir que la moitié des hommes qui ont des difficultés pour uriner à cause d'une grosse prostate ont une fonction érectile perturbée. Mais ils n'osent pas en parler. Et donc, le fait de venir parler de leur prostate parce qu'ils se lèvent la nuit, parce que leur femme leur a dit « tu te lèves la nuit, il faudrait consulter », leur permet enfin de parler à quelqu'un des problèmes sexuels dont ils n'osent pas parler sinon.
Une question primordiale posée par Mohamed en Mauritanie sur notre page Facebook, encore une fois. J'aimerais savoir ce qu'on doit faire pour dépister les troubles de la prostate et à quelle fréquence effectuer ces contrôles?
Alors c'est très facile, c'est un dosage sanguin, c'est le dosage d'un sucre qui s'appelle le PSA, Prostate Specific Antigen, qui est en fait une substance sécrétée par la prostate pour liquéfier le sperme après l'éjaculation, pour libérer les spermatozoïdes, pour qu'ils puissent aller féconder l'ovocyte. Une partie de ce PSA passe dans le sang de façon naturelle et lorsque le taux qui passe dans le sang est un peu trop élevé, c'est le signal d'alerte pour faire un bilan prostatique. Ce n'est pas parce que le PSA va être élevé qu'il y a un cancer, mais si le PSA est élevé, il faut vérifier qu'il n'y a pas de cancer. Et donc après, le toucher rectal, c'est la base. Le toucher rectal, on sent la prostate un peu au-dessus de l'anus, 2-3 cm au-dessus de l'anus en avant. La prostate est souple en principe et puis quand il y a un cancer, il y a un petit nodule pierreux à l'intérieur. Donc PSA, toucher rectal et puis si on a la possibilité, le mieux du mieux, c'est l'IRM de la prostate.
L'IRM pas toujours accessible, par contre le toucher rectal, on peut
le
dire que c'est quand même
l'examen
simple,
c'est immédiat,
le plus simple et le plus accessible.
Parce qu'on voit si la prostate est grosse ou pas et le PSA est lié à la taille de la prostate. Une grosse prostate donnera un PSA élevé sans cancer et encore une fois on peut sentir un petit nodule dur suspect de cancer au toucher rectal.
Alors professeur Desgrandchamps, est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers? C'est une question qu'on nous a beaucoup posée.
Oui,
aussi.
Il y en a. Alors il y a des facteurs familiaux, mais qui concernent peu de patients, peut-être 10-15%. Et ces facteurs familiaux, c'est lorsqu'il y a des cancers de la prostate jeunes, c'est-à-dire autour de 50 ans, à deux niveaux, c'est-à-dire père et frère, par exemple, dans la famille. Mais en fait, l'immense majorité des cancers de la prostate surviennent sans facteurs familiaux particuliers et sont beaucoup liés à l'âge. C'est-à-dire que le cancer de la prostate, l'âge médian est autour de 68 ans. Et les facteurs favorisants sont beaucoup des facteurs d'environnement, en particulier l'alimentation qui augmente le risque de cancer. L'alimentation occidentale, très riche en graisses saturées animales, augmente le risque de cancer.
On a vu aussi des études autour des Antilles à cause du chlordécone. Vous parlez d'environnement, d'alimentation.
Ça fait partie de l'environnement. Le chlordécone, qui est heureusement interdit d'utilisation, et a des effets hormonaux un peu œstrogéniques, qui sont à l'opposé de l'hormone mâle testostérone, et augmente de façon très forte le risque de cancer de la prostate.
Alors avant de donner la parole aux auditeurs, je vous propose, professeur Desgrandchamps, un vrai ou faux. Plusieurs inquiétudes sur notre page Facebook. Par exemple, Tchèque à Kinshasa en RDC pose la question: est-il vrai que l'on peut avoir des troubles de la prostate par manque d'activité sexuelle? Une autre question d'Henri qui est également à Kinshasa: des rapports sexuels trop fréquents peuvent-ils être à l'origine de la prostatite? Et une dernière question à laquelle vous répondrez juste après: vélo et prostate quid?
Alors, c'est des questions très intéressantes. On va démêler le vrai du faux. Activité sexuelle et prostate, ça fait partie du sentiment de culpabilité dont je parlais. Les hommes disent « j'ai trop, j'ai pas assez, voilà, eu de rapports sexuels, etc. » Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions dans la littérature jusqu'à ce qu'une étude qui a été confirmée depuis montre que l'activité sexuelle, en fait, protège plutôt contre le cancer de la prostate avec un nombre d'éjaculations par mois très élevé. C'est plus de 20 éjaculations par mois qui diviserait par deux le risque de cancer de la prostate. Mais en même temps, il faut...
Vous parlez au conditionnel.
Oui, parce que c'est toujours du déclaratif. C'est-à-dire que les hommes disent, on leur demande combien ils ont eu d'éjaculation dans le mois. Bah vous dites 10, vous dites 20. Mm. Comme si je vous demande si vous mangez des tomates souvent dans la semaine. Et les gens disent bah, 3 fois. Voilà, donc c'est quand même du déclaratif. Il n'y a pas eu d'études prospectives obligeant les hommes à avoir plus de 20 éjaculations par mois et un autre groupe leur interdisant. Donc c'est probablement vrai, mais ce n'est pas encore complètement prouvé. Et par contre, il faut avoir des rapports sexuels, j'allais dire protégé, c'est-à-dire que pour répondre à la deuxième question, la prostatite, en fait, est liée à l'activité sexuelle. Comme les cystites de la femme, c'est les germes qui remontent le long du canal de l'urètre, le long de la verge, et qui vont infecter la prostate. Quant à la troisième question, vélo-prostate, ça fait beaucoup parler dans les pelotons. Hein, on fait 150 km le dimanche et on discute entre hommes. Et on dit, t'as fait ton PSA? Bah oui, moi, il était à 16, mais c'est parce que j'ai fait une grande sortie la veille. Est-ce que c'est vrai ou pas? Probablement pas. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais considérer que le vélo est responsable de l'élévation du PSA. Ce que l'on sait, c'est que la selle de vélo n'écrase pas la prostate, elle écrase les organes génitaux, il peut y avoir des risques d'engourdissement des organes génitaux, voire d'impuissance, mais ça ne touche pas la prostate. Par contre, l'exercice physique, quand il est très intense, augmente la testostérone, l'hormone mâle, et peut augmenter un peu le PSA, alors qu'une sortie très longue va plutôt baisser le PSA. On avait fait le dosage du PSA à Paris et à Nice sur un Paris-Nice senior, et on voit que donc c'est 1000 km de vélo, à l'arrivée à Nice, le PSA baisse un peu, mais ça ne touche pas la prostate.
Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et on accueille Charles de Montévran, en région parisienne. Bonjour et bienvenue Charles, on vous écoute.
Bonjour.
Bonjour Charles, on vous écoute.
Oui, voilà. Comment est-ce que je vais commencer? Je vous explique un peu l'historique de la maladie, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
Bon, je n'ai pas eu en réalité de symptômes extérieurs pour ce qui concerne ma prostate. C'est à la suite d'un examen de PSA que j'ai été, que les choses se sont déclenchées. Il y a eu, à la suite de cet examen de PSA, qui s'était élevé à 17, le médecin m'a soumis à une biopsie par toucher rectal. Ensuite, j'ai été soumis à une scintigraphie. C'est à la suite de cette scintigraphie-là que j'ai été opéré de la prostate, ce que vous appelez prostatique. Total, prostatectomie totale.
Ça donc, veut dire voilà, une ablation des testicules, c'est ça?
Non, de la prostate.
Que de la prostate.
Que de la prostate, oui.
Oui. Donc, à la suite de cette opération, tout s'est bien passé. Simplement, il y a eu des risques dès le départ, mais ça a été maîtrisé au moyen d'exercices, pas de
rééducation.
Des exercices de rééducation pour renforcer la...
Le sphincter et le périnée.
Voilà, c'est le classique. Périnée.
Oui, oui.
Et donc, après ça, un an après, j'ai commencé à avoir des troubles de l'érection et ensuite à me lever plusieurs fois la nuit pour aller uriner. Okay. Lorsque j'ai consulté le urologue, il m'a prescrit, pour les troubles urinaires, il m'a prescrit du soliféacine.
Oui, ça bloque 5 mg. Ça bloque voilà. La contraction de la vessie.
D'accord. Oui, et en même temps, il m'a soumis à une échographie vésicale et mesure résiduelle. Mm-hmm. Donc, en ce moment, le seul traitement que je suis, c'est le EDEX 10 mg.
Pour les érections.
Pour les érections.
OK.
Bon, mais j'avoue que ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore probant.
Donc, Charles, vous avez arrêté le traitement contre les gènes urinaires, c'est ça? Ou vous le prenez encore?
Non, je ne l'ai pas arrêté, mais comme je devais revoir le médecin, voilà, l'urologue, il y a eu des retards, il y a eu des reports dans les rendez-vous, ce qui fait que j'attends de le voir. Je vais probablement le voir la semaine prochaine pour qu'on fasse le point.
Donc Charles, je vais reprendre un peu votre histoire parce qu'elle est assez didactique. Elle correspond à l'histoire que beaucoup d'hommes vivent. Tout d'abord, le PSA à 17. Avant de faire des examens complémentaires, il faut redoser le PSA parce que le PSA monte et descend tout seul de plus ou moins 20%. Voilà. Deuxièmement, la biopsie que vous avez eue est importante, c'est même cardinal, mais en principe, il faut faire une IRM avant, surtout si vous êtes à Montévrain, la disponibilité de l'IRM est facile, de façon à cibler une éventuelle anomalie. Et s'il n'y a pas d'anomalie, ne pas faire de biopsie. Après, sur la biopsie, il ne faut traiter que les cancers agressifs. Avoir un cancer de la prostate ne veut rien dire. Il faut savoir s'il est agressif ou pas. Je suppose que le vôtre l'était, puisque vous avez été opéré. Donc, vous avez une prostatectomie radicale, dont le risque d'effets secondaires et de séquelles sont ceux que vous vivez. C'est-à-dire, au départ, des fuites qui se corrigent, en principe, dans les 3 mois qui suivent. Et puis, secondairement, des troubles de l'érection. Ce qui est surprenant, c'est qu'apparemment, vous m'avez dit, en tout cas, que les troubles de l'érection sont arrivés après, un an après. D'ordinaire, au contraire, on a des troubles de l'érection immédiats. Et après, l'érection revient. Pourquoi il y a problème d'érection? C'est parce que en enlevant la prostate, en fait, on peut abîmer les nerfs de l'érection qui sont juste collés sur la prostate. Et ça, quelle que soit la technique, que ce soit la chirurgie traditionnelle avec une ouverture cutanée ou la chirurgie robotique ou la laparoscopique, les nerfs entourent la prostate, sont des petits filets nerveux et peuvent être abîmés par l'opération. Alors ces nerfs, ça repousse et en principe, en un an, les érections reviennent, d'autant plus que les gens sont jeunes. Le facteur principal d'érection, c'est l'âge. Je crois que vous avez 69 ans, 70 ans, et il y a plus de risques de ne pas retrouver d'érection que quand on est opéré à 50 ans. Après, pour les traitements de ce que vous avez comme séquelles, c'est surprenant que vous vous leviez la nuit à distance d'une opération de prostatectomie radicale. Et donc, dans les examens que votre urologue vous a demandé, bien sûr, il faut les faire, mais il faut faire un en plus. Il faut mesurer le volume que vous faites la nuit. Parce que quand un homme se lève la nuit, il y a 4 causes. Soit c'est la prostate, c'est plus vous. Et dans ces cas-là, si jamais les gens ont la prostate, c'est un jet faible. Soit c'est la vessie, et dans ces cas-là, on urine souvent la nuit, mais également très souvent le jour. Soit, et c'est les 2 autres causes, et c'est pour ça qu'il faut mesurer le volume, il y a l'apnée du sommeil, c'est les gens qui ronflent et qui font des pauses, ou l'insuffisance cardiaque. Et dans ces 2 causes, le volume d'urine la nuit est important, au-dessus d'un demi-litre. Donc si vous pouvez apporter ce résultat à votre urologue, ça lui permettra de bien vous diriger. Après, le médicament que vous prenez, la solifénacine, marche contre les contractions de vessie, donc ça, il faut le continuer, mais peut avoir des effets secondaires au long cours, donc peut-être 1 jour sur 2 ou diminuer la dose. Quant à l'EDEX, malheureusement, c'est le dernier recours si les érections ne reviennent pas. Ça marche très bien, mais c'est une technique pour les auditeurs qui consiste à faire une injection dans la verge à la demande, c'est avant un rapport sexuel. On pique un mélange de prostaglandine qui crée une érection pendant 3-4 heures et qui permet d'avoir des rapports sexuels, mais c'est plus comme avant. Voilà.
Donc, reconsulter pour finalement adapter les traitements.
Voilà, donc c'est très bien. Votre urologue vous suit très bien. Les examens qu'il demande sont très bons. Vous pouvez lui apporter en plus la mesure du volume de la nuit et il aura tout pour bien vous prendre en charge.
Merci Charles pour votre appel. On passe le micro de Priorité Santé à Pierre qui est à Douala au Cameroun. Bonjour.
Bonjour, bonjour madame.
On vous écoute.
Bonjour
Pierre.
Monsieur.
Oui, mon problème c'est, en fait ce n'est pas le mien moi-même, mais c'est celui de mon oncle qui a, en 2019, eu un problème de prostate. En fait, ça s'est compliqué, la mission, en 2019, il fallait consulter. Et lorsqu'il a consulté, le traitement ordinaire n'a pas donné, il fallait qu'on opère. Il a donc été opéré dans un centre un peu plus spécialisé. Malheureusement, l'opération n'a pas résolu le problème, la première, quoi.
Est-ce que vous savez Pierre, est-ce que vous savez de quel trouble de la prostate souffrait votre oncle?
Oui, en fait, c'était l'adénome, en fait, le gonflement de la prostate.
D'accord.
Oui, c'était ça. Et puis, on a, dans le psycho aussi, on a isolé un germe aussi. C'était le staphylocoque aureus. pendant les examens préliminaires qu'il avait fait.
D'accord.
Donc, je disais, lorsque la première opération a raté, il fallait donc la deuxième, toujours par le même médecin qui avait décidé cette fois-là de le casser. Bon, jusque-là, après la deuxième opération, ça n'a pas toujours donné. Où le malade s'en est allé un an après. Alors, je voulais donc savoir si le traitement chirurgical ou bien la chirurgie serait-il le choix, le premier choix à faire lorsqu'il y a ce genre d'affection.
Merci Pierre pour cette question. Est-ce que professeur Desgrandchamps peut déjà rassurer Pierre au sujet de l'opération qui n'est normalement pas une opération risquée ?
Alors c'est pas risqué, mais quand même, il faut qu'elle soit bien encadrée. Parce que quand on touche à la prostate, il y a un risque important de saignement pendant l'opération. L'opération peut se mener par les voies naturelles, on passe par la verge pour gratter l'intérieur de la prostate de façon à élargir le canal pour que l'urine passe mieux. C'est ce qu'on appelle la résection endoscopique. Il faut un bon matériel vidéo endoscopique et puis donc il y a ce risque de saignement. Quand la prostate est plus grosse, il faut passer par le ventre et enlever la partie centrale de la prostate et là encore, il y a un risque de saignement. Après cette opération, il y a une modification de la sexualité dont il faut prévenir les gens, qui est l'éjaculation rétrograde. L'opération n'entraîne pas d'incontinence, n'entraîne pas d'impuissance, mais au moment de l'orgasme, le désir est le même, le plaisir est le même, mais au moment de l'orgasme, le sperme reste dans la vessie et après être éliminé avec les urines. Donc après une opération de résection de prostate pour adénome, on ne peut par exemple plus avoir d'enfant. Ça, c'est pour l'adénome de la prostate dont souffre l'oncle de Pierre. Après, ce qui est surprenant, c'est cette histoire de chirurgie secondaire ou une opération ratée. En principe, quand on commence à toucher aux testicules, c'est qu'il ne s'agit plus d'adénome de la prostate, mais de cancer de la prostate. Le cancer de la prostate dépend des testicules, ça dépend de la testostérone. Et donc, le premier traitement du cancer de la prostate, quand il est étendu, c'est de supprimer la testostérone, donc de faire l'ablation des testicules. Il y a également des médicaments qu'on peut donner en injection, mais la base du traitement, c'est la suppression des testicules, en tout cas de l'activité hormonale des testicules. Donc, on peut se demander si l'oncle de Pierre n'avait pas en fait un cancer de la prostate qui le gênait et non pas un adénome. Et dans ces cas-là, l'opération peut rater parce que le cancer repousse. Et donc, ce qu'ont fait les médecins, c'est ce qu'il fallait faire, c'est tenter un traitement hormonal. Et malheureusement, apparemment, le traitement n'a pas suffi. Mais on a peut-être plus en présence d'un patient qui avait un cancer de la prostate qu'un adénome de la prostate.
Merci encore Pierre pour votre appel. On va entendre d'autres témoignages d'auditeurs juste après Love You Better de Monophonics sur RFI.
Remember when you wonder what was true? That's your instinct for conflict got you looking like a fool.
But I gave you all I had, and all the good and bad, but you just couldn't see what a good man means.
I couldn't if I loved you better, 'cause what we had together and lived forever. Listen, baby, how could it if I love you better?
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI, émission consacrée à la 18e journée européenne de la prostate. Et on est en votre compagnie, professeur Desgrandchamps, chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Tout de suite, on accueille une auditrice, c'est Aurélie à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue Aurélie.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour Raphaël.
Et Aurélie, on vous écoute.
Merci. Alors, mon père a 65 ans, il urine beaucoup et ne parvient pas à retenir ses urines par moment. Il est allé consulter un urologue qui lui a prescrit des analyses sanguines et une échographie. Les analyses ont révélé un taux de PSA à 55, une absence d'infection urinaire et une taille de prostate normale. Cependant, l'urologue trouve le taux de PSA élevé et demande de faire une biopsie. À côté de ça, il lui a prescrit du 14, 4 mg à prendre le temps de faire une biopsie qui n'est pas d'accès facile ici. Alors ma question est la suivante. À quel moment doit-on effectuer une biopsie et à partir de quelle valeur on considère que le taux de PSA est élevé?
Merci pour cette question.
C'est une très bonne question. Pour répondre, le PSA dépend de la taille de la prostate. Le PSA normal, c'est à peu près 10% de la taille de la prostate. Donc, globalement, les adénomes font peut-être 100-110 grammes. Donc, on considère que 110 grammes, ça fait un PSA à 11 pour être normal. Au-delà de 10, il faut faire attention au risque de cancer. Donc, votre papa qui a un PSA à 55, il faut absolument faire des biopsies parce qu'il y a un risque de cancer. Le diagnostic différentiel qui a été évoqué par l'urologue, c'est l'infection, parce que l'infection peut élever le PSA. Et comme il n'y a pas d'infection, il faut faire la biopsie. Donc, pour se résumer, un PSA au-delà de 10, c'est un PSA suspect si la prostate n'est pas grosse et les biopsies sont à faire. Si vous avez la possibilité, une IRM est bienvenue avant. En l'occurrence, à Abidjan, c'est peut-être compliqué. Donc, dans ces cas-là, il faut faire des multiples biopsies. En fait, on dit une biopsie, mais chaque biopsie, c'est 12 prélèvements dans la prostate qui se font par voie transrectale et on pique à travers la paroi du rectum pour avoir du tissu prostatique et l'analyser.
Merci Aurélie pour Merci. Votre question. Et on reste en Côte d'Ivoire où on accueille Hippolyte qui est à Abidjan, alors qui n'est pas encore en ligne avec nous, désolé, donc je vais me faire son porte-voix, qui nous a expliqué qu'à 73 ans, il a commencé il y a quelques mois à uriner du sang. On lui a conseillé de se faire opérer, mais il a refusé l'opération par manque de moyens, surtout parce qu'il avait peur des conséquences sur sa santé, puisqu'il est diabétique. Par contre, sa sœur lui a conseillé un traitement traditionnel. Alors, je n'ai pas plus d'explications, mais en tout cas, il s'agit d'un breuvage à base de plantes que sa famille prépare au village. Professeur Desgrandchamps, je me tourne vers vous. Quid du traitement traditionnel d'abord? Est-ce qu'on peut dire un mot déjà dessus, pour, contre?
Alors, les traitements traditionnels pour les maladies de la prostate sont largement utilisés dans le monde et en particulier en France pour traiter l'adénome de la prostate. Il y avait deux spécialités, le Pygium africanum qui est un extrait d'écorce de prunier d'Afrique et le Serenoa repens qui est un extrait de palmier. Donc ça, c'est vrai pour l'adénome de la prostate. Alors, le problème de Hippolyte, c'est qu'il nous dit qu'il a uriné du sang. L'adénome de la prostate, donc bénin, on peut provoquer des saignements parce que c'est comme quand on saigne du nez, il y a des grosses veines sur la prostate et ça peut saigner. Mais il faut être certain qu'il n'y ait pas de cancer parce que quand on nous dit que quelqu'un de son entourage a été guéri par ses plantes d'un cancer de la prostate, il faut être prudent parce qu'il y a certaines plantes qui peuvent avoir un petit effet hormonal, mais ça ne doit pas empêcher les gens de prendre le traitement classique, de prendre ce traitement en plus, mais pas uniquement ce traitement.
Et l'autre question d'Hippolyte, j'espère que vous nous entendez. Hippolyte est en ligne. Alors finalement, Hippolyte est là. Ah. On va l'accueillir. Bonjour.
Oui.
Bonjour. Bonjour Hippolyte. Oui, bonjour, ça a coupé. Mais je me suis fait porte-parole. J'ai raconté votre récit que j'ai quand même sous les yeux. Donc, je sais que vous aviez une dernière question. Nous avons parlé du traitement traditionnel que vous preniez. Le professeur Desgrandchamps a répondu. Mais je sais que vous avez indiqué avoir peur de l'opération. Hippolyte, pourquoi ?
Comment ?
Vous avez indiqué au standard que vous aviez peur de l'opération. De vous faire opérer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Parce que j'ai beaucoup de maladies, je suis diabétique, j'ai la tension artérielle, je suis asthmatique. Alors, tout ça là, c'est pourquoi je suis âgé, j'ai 73 ans. Oui. C'est ça que voilà, tout cela qui m'a fait peur. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais c'est cela qui m'a fait peur.
Alors, Hippolyte, si vous avez des symptômes urinaires, ce n'est pas forcément obligatoire de vous opérer si c'est un adénome de la prostate, si ce n'est pas un cancer. Donc on ne connaît pas votre PSA, mais si le PSA n'est pas élevé et qu'il n'y a pas de risque de cancer, en fait, l'opération de l'adénome de la prostate se fait dans deux situations. Soit parce que les médicaments classiques de l'adénome de la prostate ne sont pas assez efficaces et c'est le patient qui dit « je ne peux plus vivre comme ça, je suis obligé de me précipiter aux toilettes, je suis obligé d'attendre, c'est goutte à goutte, etc. » Donc ça, c'est le malade qui décide d'aller plus loin que les médicaments. Mais l'autre possibilité, c'est lorsque la vessie s'abîme. Quand l'adénome grossit, la prostate grossit, elle empêche la vessie de se vider et la vessie au long cours peut s'abîmer. Et ça, c'est l'échographie qui permet de le savoir, qui permet de savoir quelle quantité il reste dans la vessie. S'il reste plus de 200 millilitres, alors là, il vaut mieux être opéré. Voilà, donc la situation, votre situation, vous avez du sang dans les urines, il faut être sûr que c'est lié à l'adénome et pas au cancer. Et si c'est lié à l'adénome, c'est vous le patron. C'est-à-dire que si vous supportez vos symptômes avec les médicaments qu'on vous a conseillés, les extraits de plantes et autres, et que globalement ça va bien, c'est pas la peine d'être opéré.
Est-ce qu'on a répondu à vos questions?
On a répondu, mais il y a beaucoup de... Vous voyez, moi... c'est le contraire que je constate. C'est-à-dire, moi, je pisse beaucoup, contrairement à mes voisins qui ont la prostate, parce que leurs urines, on met de la sonde, parce que c'est bloqué.
Ah ben oui, donc il faut vous faire opérer. Si vous êtes bloqué, c'est certain qu'il faut vous faire opérer. Il faut faire ce dont on parlait tout à l'heure, un grattage interne de la prostate. Oui.
Ah oui, mais moi, je pisse beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a mon urine, il y a un sang blanchâtre.
Merci en tout cas, Hippolyte, pour votre appel. Et allez vous faire opérer, vous ne craignez rien. Si c'est,
non, non,
si
bien
c'est
entouré,
le mot
c'est
de la
fait.
Fin. Merci beaucoup pour votre appel depuis la Côte d'Ivoire, Hippolyte. Professeur Desgrandchamps, Julien, à Cotonou sur Facebook, il y avait également un message. Il nous dit « Mon père a un cancer de la prostate, mais ne peut se faire opérer par manque de moyens. » On l'a déjà entendu, hein, forcément, oui. Avec nos auditeurs. Est-ce qu'un traitement hormonal peut permettre de guérir ce type de cancer?
Alors, le guérison, peut-être pas, mais survie très prolongée, sans doute. Et effectivement, si le cancer de la prostate est déjà un peu avancé, il faut faire un traitement hormonal. Et le traitement hormonal, on en a parlé pour l'oncle de Pierre, qui est de supprimer les testicules de façon à supprimer la sécrétion de testostérone. C'est la base.
Une dernière question sur Facebook, c'est Souleymane au Mali qui nous écrit « L'année dernière, j'ai eu une résection transurétrale de la prostate. » Vous allez nous dire de quoi il s'agit, professeur Desgrandchamps.
Oui, oui.
« J'ai encore des problèmes. Je n'arrive pas à uriner en une fois. C'est
D'accord.
gênant et je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'une embolisation, là aussi je compte sur votre éclairage,
D'accord.
de la prostate pourrait régler ce problème ?»
Alors, c'est une question intéressante. La résection endoscopique de la prostate, on en a parlé tout à l'heure, ça consiste à passer un appareil vidéo par la verge et à élargir le canal central de la prostate pour que l'urine coule mieux. Donc c'est ce qu'a eu Souleymane. Il a une résection endoscopique de la prostate. En principe, après, le débit est fort parce que l'urine n'a plus d'obstacle au travers de la prostate. S'il y a de nouveau un problème de débit, il y a deux possibilités. Soit la prostate a repoussé, ça repousse chez tout le monde, mais il n'y a que 10% des hommes qui ont besoin de nouvelles opérations, et c'est rare que ça repousse dans l'année. Par contre, il peut y avoir une complication de la résection qui est le rétrécissement du canal de l'urètre. Quand on passe un appareil par la verge, le canal peut être abîmé, et il y a une sorte de cicatrice rétractile qui gêne le passage de l'urine. Et donc, avant de savoir s'il faut retraiter la prostate, il faut savoir comment est le canal et donc passer à l'intérieur un appareil vidéo pour savoir s'il est rétréci ou pas. Alors, l'embolisation de la prostate, dans la situation de Souleymane, n'est pas adaptée. L'embolisation de la prostate, c'est une alternative à une opération pour les prostates volumineuses qui se développe de plus en plus dans le monde et qui marche à peu près une fois sur deux. C'est-à-dire que la chronologie, c'est on traite d'abord les malades qui ont des grosses prostates et qui s'en plaignent parce qu'ils sont obligés de se lever la nuit ou que le débit est faible, avec des médicaments. Si les médicaments ne marchent pas, alors en principe, c'est l'heure de la chirurgie. Entre la chirurgie et les médicaments, c'est l'embolisation. L'embolisation, ce sont les radiologues qui le font, qui piquent par par l'artère du poignet, qui descend d'un long cathéter jusque dans la prostate, qui obstrue les artères de la prostate. Donc la prostate a moins de sang, elle diminue un peu de taille et les gens vont mieux. Donc ça marche une fois sur deux. Le grand avantage, c'est que par rapport à l'opération classique de l'adénome, dont on a dit que ça provoquait une éjaculation rétrograde, le sperme passe dans la vessie, l'embolisation, elle, ne modifie pas la sexualité. Donc c'est une alternative très intéressante qui se développe beaucoup, mais qui n'est pas adaptée au cas de Souleymane.
Alors, on devait accueillir Joël à Abéché au Tchad, mais décidément, le téléphone nous joue des tours ce matin. Donc, je vais prendre son témoignage et vous le livrer. Je suis étudiant en médecine. Je fais actuellement un stage dans la clinique privée d'un spécialiste urologue-andrologue. Et j'ai remarqué qu'à l'hôpital, beaucoup d'hommes âgés avaient des troubles de la prostate. Par exemple, nous avons un patient de 75 ans qui avait une hypertrophie bénigne de la prostate. Il a subi une prostatectomie il y a 2 mois. L'opération s'est bien passée, mais il est toujours hospitalisé. Alors, quelle est la cause principale de l'hypertrophie bénigne de la prostate chez les hommes et pourquoi ce trouble n'arrive-t-il qu'aux hommes âgés ?
Très bonne question. Je voudrais dire à Joël, étudiant en médecine, qu'il doit faire attention aux mots qu'il utilise. On n'utilise pas le mot prostatectomie pour l'adénome de la prostate, mais adénomectomie. Prostatectomie, c'est en principe l'ablation complète de la prostate et c'est plus pour le cancer. Ceci étant dit, pourquoi les maladies de la prostate arrivent ? C'est parce que l'homme prend de l'âge, c'est tout. La prostate est faite pour la reproduction et à partir de 50 ans, la prostate ne sert plus à rien et donc évolue soit en grossissant, c'est l'adénome de la prostate qui est bénin, soit en se cancérisant. Voilà, le facteur, c'est l'âge.
Excusez-moi, en termes de prévention, professeur Desgrandchamps, justement, après toutes ces questions d'auditeurs...
Il ne faut pas vieillir, voilà, c'est ça, pour rester jeune.
En termes de prévention, est-ce que vous avez des conseils, des bonnes habitudes pour conserver une prostate en bonne santé le plus longtemps possible ?
Oui, il y en a. Et en fait, ça correspond avec plein de bon sens à tout ce qu'il faut pour être en bonne forme et longtemps. C'est-à-dire, en fait, il faut faire attention à son poids. Il ne faut pas avoir un surpoids, donc c'est manger moins. Il faut manger mieux, on en a parlé un petit peu, faire attention aux graisses saturées d'origine animale, les réduire, faire attention aux produits laitiers, les réduire, et à l'inverse, augmenter les poissons gras comme le saumon, augmenter les fruits et les légumes, en particulier les tomates, les crucifères et également la grenade. Donc ça, c'est manger moins, manger mieux. Après, il y a l'activité physique régulière.
Sportive.
Même physique simplement, c'est-à-dire que la sédentarité, rester devant la télé plus de 10 heures par semaine, double le risque d'adénome de la prostate, parce qu'on prend du poids.
Et de plein d'autres maladies, d'ailleurs.
Et de plein d'autres maladies, parce qu'on prend du poids, et ça a un désordre complet de l'organisme. Donc, mangez moins, mangez mieux, faites de l'exercice, et on en a parlé un peu, ayez une vie sexuelle harmonieuse, remplie, n'ayez pas peur, et plus on a d'éjaculation, moins il y a de risque de cancer.
Et en ce qui concerne le café et l'alcool, c'est une question qui est revenue aussi.
Alors, le café et l'alcool agissent sur la vessie, mais pas sur la prostate. La caféine irrite la vessie et diurétique en même temps, donc les gens qui sont obligés d'uriner très souvent, et qui sont des grands consommateurs de café à la cafette du bureau ou ailleurs, en fait, la première chose à leur dire, c'est de réduire le café. Et pour l'alcool, c'est pareil, c'est diurétique, et donc il faut réduire l'alcool. Mais ça n'agit pas sur la prostate.
Et boire un peu moins d'eau le soir, peut-être, avant le coucher pour
Alors, faire attention à boire moins d'eau avant de se coucher, et surtout de ne pas boire pendant la nuit, parce que 75% des hommes qui se lèvent la nuit pour aller aux toilettes, parce qu'ils ont envie d'uriner, boivent un verre d'eau et donc préparent le second lever. Un verre d'eau, c'est 200 ml, la contenance de la vessie, c'est 200 ml, donc c'est facile. Vous vous levez à 1h du matin et vous en profitez pour boire un verre, ben vous êtes sûr de vous relever à 3h du matin.
Professeur Desgrandchamps, on a commencé évidemment à en parler de ce tabou. Est-ce que les hommes viennent facilement vous consulter ? Est-ce qu'il y a des gènes à évoquer les problèmes intimes en consultation ? Et surtout, en quoi le fait de venir tardivement peut être un problème pour vous ?
Alors, c'est une bonne question. Le tabou existe. Alors, grâce à vos émissions, quand même de moins en moins, plus on en parle, mieux c'est. Un patient bien informé, c'est un patient mieux soigné. Bien sûr que oui, il faut venir tôt parce que même pour l'adénome de la prostate qui est bénin, cet adénome peut avoir des conséquences sur la vessie, ce qui fait que traiter tard donne de moins bons résultats. La vessie qui est abîmée fera qu'on va se lever plus souvent ou qu'on aura du mal à contracter sa vessie. Et pour le cancer, c'est évident. Plus le cancer est pris tôt, plus les chances de guérison sont élevées.
Est-ce que les patients qui tardent à venir consulter, par exemple, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, est-ce que ça a eu un impact sur votre diagnostic et ensuite la prise en charge?
Alors, l'impact a été surtout sur l'afflux de patients en fin de Covid. Mais on est rarement à une année près quand même en matière de pathologie de la prostate. Et en cas de vraie urgence, comme un blocage de vessie, par exemple, les hôpitaux restaient fonctionnels pour pouvoir mettre une sonde. Donc, le cancer de la prostate peut attendre un peu, quelques mois, il peut attendre un peu sans que ce soit trop péjoratif, mais pas trop. Voilà, donc pour le Covid, c'était surtout un surcroît de patients en fin de Covid plutôt que des manques de diagnostic pendant le Covid.
Alors vous parlez de cancer de la prostate. Une autre question qu'on a eue sur Facebook, est-ce que ces traitements entraînent des effets secondaires ?
Le traitement du cancer de la prostate entraîne des effets secondaires. Soit les opérations, et on l'a vu, peuvent provoquer des problèmes de continence. On a du mal à retrouver et à garder ses urines. Donc cela, il faut travailler avec son périnée, donc la rééducation périnéale. Soit des problèmes d'érection qui sont beaucoup liés à l'âge en même temps et aux dégâts sur les nerfs. Et puis pour l'adénome de la prostate, les complications chirurgicales, c'est l'éjaculation rétrograde.
Une dernière question d'auditeur sur Facebook, c'est Jim qui est au Tchad, qui demande « Peut-on avoir des troubles de la prostate avant l'âge de 50 ans ?» Très bonne question. « J'ai des infections urinaires depuis quelques temps et je me demande si ça ne fait pas partie de ces troubles. »
Alors Jim a raison. Avant 50 ans, il n'y a pas d'adénome, il n'y a pas de cancer. Par contre, il y a des infections. Et donc, ce qu'a de Jim, c'est effectivement des infections urinaires prostatiques qu'il convient de traiter longtemps. C'est-à-dire qu'une infection urinaire chez la femme peut se traiter pendant 3 jours. Ça suffit. Par contre, une infection prostatique de l'homme, c'est un traitement de 3 semaines. Le risque, si le traitement antibiotique n'est pas prolongé, c'est que la bactérie se cache dans la prostate et fasse une récidive et après devienne difficile à soigner parce que c'est une sorte de chronicisation. Les gens ont des douleurs et on a du mal à les sortir de là. Donc le conseil à donner à Jim, c'est de prendre un traitement antibiotique s'il a une infection, mais longtemps, c'est 21 jours.
Professeur Desgrandchamps, aujourd'hui, où en est la recherche? Est-ce qu'il y a des nouveautés en termes de prise en charge thérapeutique?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en particulier, sont arrivés il y a maintenant 3-4 ans, des nouveaux médicaments dans le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, on l'a dit, dépend des testicules, dépend de la testostérone pour survivre. Donc, en supprimant la sécrétion de testostérone ou les testicules, le cancer va s'affaisser complètement. Mais il va repartir. Pourquoi il repart 2 ans après? C'est parce que les cellules prostatiques qui sont en manque de testostérone se mettent à en fabriquer elles-mêmes. C'est de l'autosuffisance. Et donc, on ne savait pas comment faire ce qu'on appelle la résistance à la castration jusqu'à ce que ces médicaments arrivent qui sont d'un effet formidable, vraiment formidable et très peu d'effets secondaires. Ces médicaments agissent sur la sécrétion propre de testostérone par les cellules prostatiques et donc ce sont des médicaments qui prolongent de façon phénoménale la survie et qui améliorent bien, bien la vie des gens.
C'est ce que j'allais vous demander, une dernière question pour conclure. Comment conserver la meilleure qualité de vie possible quand on a une atteinte de la prostate?
Alors, c'est déjà faire attention de pas tomber dans le surtraitement. On en a peu parlé, mais la moitié des cancers de la prostate qui sont découverts à un stade très précoce n'ont pas besoin d'être traités parce que c'est forme normale de vieillissement. Donc, pour protéger sa prostate, la base de la base ou sa qualité de vie, c'est de n'opérer ou de ne irradier, de ne traiter en fait, que les gens pour lesquels c'est indispensable. Et puis après, de faire attention à bien vivre son traitement et notamment le traitement hormonal qui est la castration. La castration doit être accompagnée par le médecin généraliste avec beaucoup d'activité et faire attention à son poids.
Merci beaucoup, professeur.
Merci,
François Desgrandchamps, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris et de l'unité translationnelle d'immuno-onco-urologie du CEA, également auteur de l'ouvrage « La prostate, on en parle » aux éditions Hachette Bien-être. À l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, qui a lieu le 21 septembre, nous faisons aujourd'hui le point sur cette maladie neurodégénérative. Et pour cela, on retrouve en ligne le docteur Christophe Trival, responsable de l'unité cognitivo-comportementale CEBAG Lanoé à l'hôpital Paul Bourousse, à Villejuif, en région parisienne. Docteur Trival, bonjour. Docteur Trival, la maladie d'Alzheimer concerne une personne sur 3 après 85 ans. Est-ce qu'on sait combien de cas sont diagnostiqués chaque année?
Le nombre de nouveaux cas, c'est à peu près 225 000 cas nouveaux chaque année. Et on estime qu'en France, il y a à peu près 1 million de personnes concernées par la maladie d'Alzheimer ou les démences apparentées aussi, parce qu'il y a d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer qui donnent des troubles similaires.
Et ce chiffre impressionnant, 2,1 millions de personnes pourraient être atteintes d'ici 2040 chez les plus de 65 ans.
Tout à fait. Le nombre augmente du fait du vieillissement de la population, parce qu'on a quand même remarqué que le nombre de nouveaux cas avait tendance un petit peu à diminuer du fait de l'éducation. Plus le niveau d'éducation est élevé, plus on retarde l'apparition de la maladie.
Docteur Trival, expliquez-nous en quoi, justement, la maladie d'Alzheimer engendre alors le déclin progressif des facultés cognitives de la mémoire.
C'est une maladie pour l'instant dont on ne connaît pas vraiment tous les facteurs. Les hypothèses, c'est sur les plaques amyloïdes et la protéine tau, donc ce qu'on appelle les plaques séniles et la dégénérescence neurofibrillaire. Et donc ça engendre dans le cerveau des zones de dégénérescence où les neurones ne fonctionnent plus et ça perturbe la mémoire. Et donc c'est une maladie qui évolue progressivement et les premiers symptômes sont souvent des problèmes de mémoire. C'est la plaque principale au départ, mais après comme la mémoire concerne tout, ça concerne aussi la façon de savoir s'habiller, savoir manger, savoir marcher. Petit à petit, ça peut entraîner une perte d'autonomie majeure.
Et alors à partir de quel moment il faut s'inquiéter et surtout se faire dépister ?
Les formes de maladie d'Alzheimer avant l'âge de 65 ans sont très rares. Donc c'est plutôt des gens de plus de 65 ans et même plus de 70 ans en général qui ont une plainte de mémoire. Donc soit les personnes consultent d'elles-mêmes parce qu'elles se plaignent de leur mémoire et en général c'est plutôt de l'anxiété, soit c'est souvent les familles qui constatent qu'il y a des problèmes de mémoire avec des troubles, des répétitions, des gens qui posent toujours les mêmes questions, qui oublient tout à mesure. Et c'est cet oubli à mesure et souvent un manque du mot, c'est-à-dire que les personnes ne trouvent pas les mots, qui sont déjà des signes d'une forme qui a commencé déjà à évoluer de maladie de la mémoire.
Et est-ce qu'on peut prévenir la maladie d'Alzheimer ?
Actuellement, on n'a pas de traitement curatif. Et c'est vrai que l'axe principal, on est plutôt sur la prévention et on connaît un certain nombre de facteurs sur lesquels on peut agir facilement. Il y a un facteur, je vous ai dit tout à l'heure, l'éducation. Plus l'éducation est élevée, donc plus vous apprenez, vous continuez d'apprendre des choses, plus vous créez des connexions, des synapses au niveau cérébral et plus ça vous protège. Mais on sait qu'il y a des facteurs vasculaires qui jouent beaucoup, comme l'hypertension, le diabète, l'obésité, le tabagisme, la surdité. Si on ne se fait pas appareiller, c'est mauvais pour la mémoire. La dépression aussi est un facteur de risque. Il faut éviter l'isolement social. Et dans la prévention, ce qu'on peut faire, c'est l'activité physique. Alors on sait qu'il y a des facteurs de risque maintenant qui étaient un peu moins connus avant, qui sont un peu plus connus maintenant, comme les traumatismes crâniens. Donc les sports à risque, notamment de se protéger ou de les éviter en mettant un casque. Et l'alcool aussi maintenant est reconnu à forte dose, en tout cas comme un facteur de risque. Et sur le dernier facteur parmi les principaux connus, c'est la pollution de l'air. Où là, évidemment, c'est plus l'écologie, etc. C'est un peu plus difficile à agir. Mais, et tous ces facteurs, on pourrait diminuer 40% des cas de maladie d'Alzheimer.
Cette journée mondiale vise donc à sensibiliser la population à la maladie, mais aussi à parler des avancées. Alors aujourd'hui, où en est la recherche dans la compréhension, la prévention et la prise en charge de la maladie ?
Il y a énormément de recherches sur cette maladie. On progresse plutôt, je vous dis, sous la détection un petit peu des facteurs de risque sur lesquels on peut agir. On progresse aussi beaucoup sur le diagnostic, parce qu'il est probable que dans les études qu'on avait faites antérieurement avec les médicaments, quand on prenait des gens qui avaient un diagnostic de Alzheimer, peut-être qu'il y avait plein de maladies différentes en réalité et qu'on n'avait peut-être pas ciblé les vrais malades d'Alzheimer. Et là, on a des marqueurs maintenant au niveau du liquide céphalo-rachidien. Peut-être demain, ça sera au niveau sanguin simplement avec une prise de sang. On a de l'imagerie qui fait d'énormes progrès qui permet de faire des diagnostics plus précis et plus certains. Et dans la maladie d'Alzheimer, on arrive un petit peu maintenant aussi à différencier des formes chez les gens jeunes qui sont des formes génétiques, des formes, ce qu'on appelle la forme sporadique, la plus classique, qui survient chez n'importe qui, on ne sait pas trop pour l'instant pour quelle raison, et puis des formes du sujet très âgé qui seraient liées à une anomalie sur une protéine particulière, la TD43. Donc voilà, on arrive à faire des diagnostics plus précis. Et pour l'instant, dans la pratique de tous les jours, pour les malades, on n'a pas d'utilité pratique aujourd'hui, mais demain, ça sera utile par rapport à des essais ou à des nouveaux médicaments ou à des formes de thérapie plus ciblées.
Merci docteur Christophe Trival d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité cognitivo-comportementale Sebag-Lanoé à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif en région parisienne. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Setou Samaké, Ophélie Lassen et Didier Bleu à la réalisation. Demain, vous retrouverez Caroline Paré à Dakar, au Sénégal, pour une émission consacrée à la nutrition, du marché à la cuisine, comment bien manger. Rendez-vous à 9h10 en temps universel. Et d'ici là, bonne journée à tous sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner à assurer l'avenir de vos enfants.